Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les ennemis savaient très bien que toute mesure ou tout complot susceptible de nuire aux intérêts de l'Iran ne resterait pas sans réponse. L'Iran, à la main haute dans le domaine des drones dans la région, a déclaré le porte-parole des forces armées iraniennes. Le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme a fait part de l'identification par la rapporteuse spéciale de l'ONU de nombreux cas de violation des droits de l'homme des Iraniens par les sanctions américaines et les pays qui les appliquent. Et le président chinois Xi Jinping a appelé les pays des BRICS à travailler ensemble pour construire une communauté mondiale de sécurité pour tous. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici maintenant les détails. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, le général de division Hossein Salami, a une fois de plus déclaré que les ennemis savaient très bien que toute mesure ou complot susceptible de nuire aux intérêts de l'Iran ne resterait pas sans réponse. Le général de division Salami a déclaré devant une foule d'étudiants de l'Université des sciences et technologies Amir al-Momenin, affiliés aux forces terrestres des gardiens de la révolution à Ispahan, que les mesures décisives prises par le CGRI indiquent que tant qu'il y aura des hommes aussi honnêtes et sincères, aucune force ne pourra attaquer l'Iran. Le général Salami a ajouté que les forces terrestres du CGRI étaient une forteresse fortifiée pour défendre la sécurité nationale et préserver le pays et l'islam face aux ennemis de Dieu. Il a également noté que l'état de préparation accrue du corps des gardiens de la révolution islamique et ses équipements défensifs, qui sont les meilleurs au monde, ont entraîné une baisse des estimations ou déclenchement d'une guerre militaire. L'Iran a la main haute dans le domaine des drones dans la région. Nous répondons à tous nos besoins et les forces armées iraniennes peuvent coopérer avec d'autres pays pour produire des drones de reconnaissance, a déclaré ce jeudi le porte-parole des forces armées iraniennes. Le général de brigade Aboulfazl Shekarchi, porte-parole principal des forces armées iraniennes, s'exprimant lors d'une interview télévisée sur la visite du chef d'état-major général au Tadjikistan, a indiqué que les visites de chef d'état-major des forces armées iraniennes à l'étranger s'inscrivent dans le cadre des diplomaties défensives et de sécurité à l'échelle régionale et internationale. Il insiste que ces voyages sont porteurs d'importants acquis aussi bien pour l'Iran que pour les pays hôtes, y compris le Tadjikistan, où le général Barreri s'est récemment rendu. Il a ajouté, dixit, en marge de la visite du général Barreri au Tadjikistan, une usine de production de drones de reconnaissance de fabrication iranienne a été lancée dans le pays. En raison des capacités de la République islamique d'Iran dans la production de drones, cette usine ne produira que des drones de reconnaissance et sera très efficace pour notre coopération régionale bilatérale. Nous avons la main haute dans le domaine de l'industrie de drones dans la région et nous répondons à tous nos besoins de défense et de sécurité. Nous avons actuellement une coopération bilatérale et multilatérale pour l'exportation ou la production de drones de reconnaissance dans divers pays. Fin de citation. Le secrétaire du Conseil iranien des droits de l'homme, Kazem Gharib Abadi, a fait part de l'identification par la rapporteuse spéciale de l'ONU de nombreux cas de violation des droits de l'homme des Iraniens par les sanctions américaines et les pays qui les appliquent. Sur les détails du déplacement officiel d'Alena Douane en Iran, le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, Kazem Gharib Abadi, a déclaré que la rapporteuse onusienne a rencontré dans le cadre de sa visite des responsables de 30 ministères et agences gouvernementales, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le vice-président pour les affaires féminines, ainsi que les responsables du siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran. Il a ajouté que les mesures anti-iraniennes prises par les États-Unis pourraient évidemment être qualifiées de mesures coercitives unilatérales qui ont été condamnées dans diverses résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies. En visite à Téhéran du 7 au 18 mai, Elena Douane, la rapporteure spéciale des Nations unies sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la situation des droits de l'homme a noté lors d'une conférence de presse mercredi après-midi que des décennies de sanctions avaient entièrement affecté la vie du peuple iranien et avaient particulièrement touché la partie à faible revenu de la société. Elle soumettra son rapport final au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre. Sachez également que l'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU a déclaré que les mesures coercitives unilatérales violant les droits humains fondamentaux, y compris le droit à l'alimentation, provoquaient une insécurité alimentaire. Majid Tartaravanchi, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, a qualifié les mesures d'illégales, affirmant que certains États continuent de les utiliser comme une arme pour affamer la population des pays ciblés. M. Tartaravanchi a souligné que l'approvisionnement alimentaire ne doit en aucun cas être interrompu, même pendant les conflits armés. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, les sanctions de l'ONU ne devraient pas non plus mettre en péril la sécurité alimentaire mondiale. Place maintenant à la donne de lien russo-iranienne. Sur la base de ses excellentes relations avec la Russie, la République islamique d'Iran soutient tout effort visant à régler le conflit ukrainien par des moyens diplomatiques et est prêt à servir de médiateur et à aider à résoudre cette crise, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie iranienne lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux parties ont discuté de questions bilatérales, régionales et internationales, ainsi que des dernières évolutions dans les négociations entre l'Iran et les autres signataires de l'accord de 2015 à Vienne sur l'affaire nucléaire. Soulignant l'opposition de l'Iran contre l'utilisation de la guerre et les sanctions comme outil de diplomatie, Amir Abdullahian a affirmé le soutien de Téhéran à un cessez-le-feu en Ukraine et à un retour à la table des négociations. Tout en critiquant les positions non constructives des États-Unis et de l'Occident, le ministre russe des Affaires étrangères a lui aussi informé son homologue iranien des derniers développements en Ukraine et s'est félicité de toute initiative qui pousserait l'Ukraine vers des négociations. Il a également qualifié le rôle de l'Iran de constructif à cet égard. Rappelons en passant que le Congrès des États-Unis a débloqué une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine au moment où le Pentagone met en garde contre un conflit de longue durée. Au sein de ce grand paquet d'aide, 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. Le projet de loi, déjà validé par les élus de la Chambre la semaine dernière, n'a plus qu'à être ratifié par le président Joe Biden, qui réclamait depuis plusieurs semaines un vote rapide, sous peine de voir s'assécher l'aide à l'Ukraine. Et pour fermer le journal, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays des BRICS à travailler ensemble pour construire une communauté mondiale de sécurité pour tous. M. Xi a fait ses remarques en prononçant un discours par liaison vidéo lors de la session d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. À cet égard, il a exhorté que les pays des BRICS doivent renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération en matière de sécurité, maintenir une communication et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales, tenir compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun, respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de chacun, s'opposer à l'hégémonisme et à la politique de puissance, rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs, ainsi que travailler ensemble à la confrontation d'une communauté mondiale de sécurité pour tous. Merci de votre fidélité et au revoir. La Russie n'a d'autre choix que d'abattre les chasseurs israéliens. Tel est le thème de notre commentaire politique. pas les masques. Annonce officielle de l'envoi d'armes israéliennes en Ukraine et la Russie qui se trouve face à un choix. Celui d'enrayer Israël en Syrie en abattant ses avions dans le ciel syrien, voire israélien, ou de s'attendre à voir ses navires être visés en mer Noire par les missiles Blue Spear israéliens et ses avions par la DCA Barak 8 embarqués. Le ministre israélien des Affaires militaires a officiellement annoncé la fourniture d'armes à l'Ukraine. Selon Benny Gantz, en plus d'octroyer une aide humanitaire à l'Ukraine, Israël lui fournira également une assistance militaire. Nous soutenons l'Ukraine et lui fournissons une assistance humanitaire et militaire tout en tenant compte des aspects les plus larges des intérêts d'Israël, a déclaré le ministre israélien Benny Gantz lors d'une conférence à l'université Reichmann à Herzliya. Selon des informations non confirmées, Israël pourrait transférer à l'Ukraine plusieurs lots d'armes légères, de matériel de reconnaissance ainsi que les missiles Spike. Les experts réaffirment que les déclarations de Benny Gantz sur la fourniture d'armes à l'Ukraine pourraient entraîner une complication extrêmement grave des relations entre les parties israéliennes et russes. De plus, les médias israéliens ont récemment annoncé que les Syriens avaient pour la première fois exploité leur S-300 russe contre les avions de combat israéliens, ce qui pourrait signifier la fin de la liberté d'action d'Israël en Syrie. Mais où va la tension Israël-Russie? Les relations entre la Russie et le régime sioniste ont été marquées par de nouvelles tensions ces derniers mois, mais ce qui pourrait émerger de ces divergences aura très probablement lieu en Syrie. Il semble y avoir des signes montrant que les Russes changent de cap face aux agressions militaires israéliennes en Syrie. Un événement important et unique a eu lieu dans le ciel de Damas, alors que les médias régionaux se concentraient sur les résultats des élections législatives au Liban. Les systèmes de défense antiaérienne de la Syrie ont tiré plusieurs missiles en direction des avions de combat israéliens qui frappaient Masyaf, au nord-ouest de la Syrie, depuis la Méditerranée. Le lendemain, le chef du Centre pour la réconciliation en Syrie, affilié au ministère russe de la Défense, a déclaré que les systèmes de défense antiaérien syrien avaient abattu 16 missiles et un drone du régime israélien lors de l'attaque de vendredi dernier. Mais quelques jours plus tard, la chaîne 13 de la télé israélienne a révélé que le système de défense utilisé par la Syrie pour contrer les frappes aériennes était un S-300. Il est naturel que ce système, bien que déployé en Syrie, ne puisse fonctionner sans l'autorisation des Russes qui l'ont fourni aux Syriens. Selon la chaîne de télévision israélienne, c'est la première fois depuis des années que le S-300 réagit à une frappe israélienne. Dans la foulée, le Wall Street Journal réaffirme que le système S-300 n'a réagi pas même une fois à aucune des 400 frappes qu'Israël a menées depuis 2017 contre le territoire syrien. Bien avant cette ouverte confrontation, il y avait déjà des signes d'un changement de cap des Russes face aux attaques israéliennes contre la Syrie. Par exemple, la fin d'avril, lorsque le régime sioniste projetait de lancer une attaque contre la Syrie, la Russie, dans un geste sans précédent, a communiqué aux médias les détails de la frappe aérienne pour exprimer son mécontentement en plus de se vanter de ses puissants services de renseignement. Au début des conflits en Ukraine, Tel Aviv tentait d'opter pour une position ambiguë qui penchait plutôt vers l'Occident. Mais son spectacle a tourné court, et il s'est finalement décidé à durcir le ton contre Moscou. Les responsables israéliens ont évoqué les soi-disant crimes de guerre russes en Ukraine. Ils ont voté contre la Russie aux Nations Unies et ont soutenu son expulsion du Conseil des droits de l'homme. En plus, nombreux sont les anciens officiers israéliens qui se battent contre les Russes en Ukraine. Et la Knesset a également accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pire encore, Israël envisage d'envoyer du matériel militaire en Ukraine. Ce sont des raisons suffisantes pour que les Russes commencent à fulminer contre Tel Aviv. Le 1er mai, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov avait affirmé qu'Adolf Hitler avait du sang juif sur une chaîne italienne appuyant l'idée d'un État ukrainien nazi. Ses propos, aussitôt retranscrits sur le site de son ministère, ont suscité l'indignation de Tel Aviv. Par ailleurs, Moscou a condamné fermement les mesures prises par le régime israélien à Gaza et en Cisjordanie. Combien de temps dure ce bras de fer? La Russie ne semble pas avoir l'intention de lier l'équation syrienne à la donne en Ukraine, ni de perturber le calme relatif qui règne en Syrie. Mais il est clair que Moscou cherche à réguler l'attitude d'Israël envers la guerre en Ukraine et la Syrie en raison de sa position importante dans la perception des responsables israéliens est une arène importante qui permettrait à Moscou d'atteindre son objectif. Ainsi, Israël poursuit ses politiques anti-russes. Moscou, lui aussi, continue de contrecarrer les frappes israéliennes en Syrie.